Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 30 septembre 2014. En direct de Washington, Idrissa Seydoulia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition...
En Sierra Leone, un centre de traitement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge laisse partir son premier patient guéri de l'Ebola.
Mandat d'arrêt contre Amadou, président du Parlement nigérien.
Les députés rivaux en Libye s'engagent à œuvrer pour un cessez-le-feu et la réouverture des aéroports de Tripoli et de Benghazi.
Le TPIR a confirmé hier en appel les sentences prononcées contre les chefs du parti au pouvoir au Rwanda lors du génocide de 1994.
À Hong Kong, les manifestants pro-démocratie ont continué à braver les autorités en poursuivant aujourd'hui leurs protestations.
Poursuite des accrochages hier entre les miliciens kurdes et les militants de l'État islamique dans le nord de la Syrie et aussi nouvelles frappes aériennes de la coalition contre les djihadistes en Syrie et en Irak. Et ne manquez pas la musique de Roger Muntou et les sports en fin d'émission. Pour l'instant, le journal. Les Nations Unies ont ouvert le QG de leur nouvelle mission pour combattre l'épidémie d'Ebola et mis sur pied une équipe au Ghana. Le chef de cette mission, Anthony Banbury, et son équipe sont arrivés hier à Accra, la capitale du Ghana.
C'est la première fois que les Nations Unies créent une mission d'urgence de ce genre. Elle aidera, a dit le secrétaire général Ban Ki-moon, à coordonner l'assistance de la communauté internationale et à apporter du soutien aux pays affectés. Ces équipes se rendront sur place en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, les trois pays les plus touchés par l'épidémie. Vendredi, l'OMS avait publié de nouveaux chiffres montrant que la maladie avait fait maintenant plus de 3000 morts et qu'il y avait au moins 6500 cas.
Au Niger, un mandat d'arrêt a été lancé contre le président du Parlement, Amadou, en fuite en France après qu'il lui ait été mis en cause dans un trafic international de bébés. Michel Joseph.
Maître Soulé Oumarou, l'un de ses avocats, a affirmé que le juge d'instruction a délivré vendredi un mandat d'arrêt contre Amadou. Mossi Boubacar, un autre des avocats, précise qu'il s'agit d'un mandat d'arrêt national. Le président du Parlement s'est enfui le 27 août après l'autorisation par ses pairs de son audition par la justice dans une affaire de trafic de bébés. 17 personnes, dont l'une de ses épouses, sont aux arrêts et sont inculpées de supposition d'enfants, faux et usage de faux et déclarations mensongères. Au début du mois, Amadou, depuis la France, avait demandé qu'un mandat d'arrêt international soit lancé contre lui pour que la justice française puisse se saisir de son cas. Principal opposant au Niger, il a toujours clamé que ses poursuites n'ont qu'un seul but, l'écarter de la présidentielle de 2016.
L'Assemblée générale des Nations unies se poursuit à New York. À l'intérieur du Palais de Verre, les chefs d'État se succèdent à la tribune pour faire leur discours. Mais à l'extérieur, l'atmosphère est tout autre car tous les opposants se donnent rendez-vous à New York dans l'espoir de se faire entendre. Les Mauritaniens qui vivent aux États-Unis, dont Bakary Tandja, ont manifesté hier devant le siège de l'ONU.
La communauté mauritanienne à travers les États-Unis réunie ici devant le siège de l'Assemblée générale des Nations Unies. Malgré la loi de 2007, l'esclavage continue en Mauritanie. L'expropriation des terres continue. Les réfugiés qui sont retournés du Sénégal continuent à vivre un calvaire dans leur propre pays. En plus de cela, les nouvelles mesures adoptées par le gouvernement de Aziz qui consistent à organiser un recensement discriminatoire est une forme de déportation des Mauritaniens à l'intérieur des frontières de la Mauritanie en raison de tous ces problèmes qui demeurent en Mauritanie et auxquels le gouvernement de Aziz n'a jamais voulu accorder une attention contre ce problème-là. Nous nous soulevons. Est-ce que vous êtes d'accord avec le message? Down, down! Down, down!
En Libye, les députés rivaux ont tenu hier une première rencontre, c'était à huis clos sous l'égide de l'ONU. Ils sont engagés à œuvrer pour un cessez-le-feu et la réouverture des deux principaux aéroports du pays, Tripoli et Benghazi. En d'autres termes, ils ont promis de mettre fin aux violences et à l'anarchie dans le pays. Jacques Aristide.
Le chef de la mission de l'ONU, Bernardino León, est parvenu à l'issue de discussions marathon à convaincre les deux camps de s'asseoir à la même table. L'ONU a salué cette rencontre qu'elle a qualifiée de positive. Elle s'est achevée sur un appel au cessez-le-feu dans tout le pays et devrait être suivie d'autres réunions après la fête musulmane de l'Adha. Le Parlement, issu des élections du 25 juin, siège à Tobrouk et n'a aucun pouvoir en dehors de cette ville. Il est contesté par des élus favorables à la milice Fajar Libya, qui contrôle Tripoli, la capitale, et a mis en place un gouvernement parallèle. Benghazi, la deuxième ville, est entre les mains d'islamistes radicaux, dont le groupe Ansar al-Sharia, placé par Washington sur la liste des organisations terroristes.
Les États-Unis vont fournir d'urgence une assistance supplémentaire de 83 millions de dollars pour aider les réfugiés qui fuient les combats au Soudan du Sud, ce qui porte cette aide à plus de 720 millions de dollars cette année. Dans un communiqué publié hier, le département d'État américain affirme que ce conflit menace de provoquer la famine et il précise que plus de 2 millions de personnes font déjà face à des niveaux critiques d'insécurité alimentaire. Selon Washington, les combats entre les partisans du président Salva Kiir et ceux de son ex-vice-président Riek Machar ont fait depuis décembre, plus de 450 000 nouveaux réfugiés.
Le tribunal pénal international pour le Rwanda a confirmé lundi en appel les peines de prison à perpétuité contre les chefs du parti au pouvoir au Rwanda au moment du génocide contre les Tutsis de 1994 dans l'un de ses derniers jugements avant sa fermeture fin 2014. Selon l'AFP, Anne, Mathieu Giroupatse, ex-président du Mouvement républicain national pour la démocratie et le développement, MRND, de l'ancien président Juvénal Habyarimana, et Édouard Karemera, l'ex-vice-président du parti, avaient été condamnés en première instance en 2011 pour génocide et crimes contre l'humanité.
À Kigali, le porte-parole du procureur général du Rwanda, Alain Mukarulanda, s'est félicité de la confirmation de la peine, notamment du fait que le tribunal réaffirme que lorsque vous détenez une position d'autorité et qu'il y a des crimes commis sous votre autorité, même si vous n'avez pas donné d'ordre directement, vous êtes tenu responsable.
Plus de 3000 migrants ont péri en Méditerranée depuis janvier, selon l'Organisation internationale pour les migrations. C'est plus que le double comparé à 2011. Félix Yepassis Zembro.
Depuis 20 ans, traverser la Méditerranée constitue le périple le plus mortel pour les candidats à l'immigration. L'OIM a enregistré la mort de plus de 4000 migrants dans le monde, dont 3072 en Méditerranée. 2014 est l'année la plus meurtrière, loin devant le pic de 2011 durant le printemps arabe lorsque 1500 décès ont été enregistrés. Selon les statistiques publiées par l'OIM, la plupart de ces personnes sont mortes par noyade, par asphyxie, de faim ou de froid. Les victimes, dans leur grande majorité, étaient originaires d'Afrique et du Moyen-Orient. Depuis l'an 2000, l'océan séparant l'Europe du continent africain a englouti plus de 22 000 candidats à l'immigration. Selon l'OIM, au moins 40 000 migrants au total sont décédés en tentant de gagner l'Europe, les États-Unis, l'Australie ou d'autres pays dans le monde.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Hong Kong, les manifestants pro-démocratie ont campé pour la cinquième journée consécutive dans les rues. Ils ont menacé d'élargir leur campagne de désobéissance civile demain si le président de l'exécutif de ce territoire chinois, Leung Chun-ying, ne satisfait pas leur demande de réforme démocratique, dont sa démission. Leung ne semble pas prêt à reculer. Dans un discours mardi, il a demandé aux leaders du mouvement Occupy Central de respecter les promesses faites à la société et d'arrêter immédiatement les protestations qui sont, selon lui, hors de contrôle.
Les accrochages se sont poursuivis hier entre les miliciens kurdes et les militants de l'État islamique dans le nord de la Syrie, alors que les forces de la coalition concluaient leur première semaine de frappes aériennes avec de nouvelles attaques contre les positions des djihadistes en Syrie et en Irak. Selon le commandement central américain, la Jordanie et les Émirats arabes unis ont participé aux plus récentes frappes en Syrie.
Le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, a accusé hier l'Iran d'essayer de leurrer le monde afin de conclure un accord qui permettrait de mettre fin aux sanctions contre Téhéran tout en lui permettant de fabriquer des armes nucléaires. S'adressant à l'Assemblée générale de l'ONU, M. Netanyahou a dit que l'Iran s'est engagé dans une mission de propagation de la révolution islamique à travers le monde et un Iran doté d'armes nucléaires, a-t-il poursuivi, sera plus dangereux que l'État islamique. La porte-parole du département d'État américain, Jen Psaki, a déclaré que les États-Unis ne sont pas d'accord avec la manière dont M. Netanyahou qualifie tous les islamistes. Elle a ajouté que le Hamas et l'État islamique sont des groupes terroristes qui posent des menaces différentes et que personne ne suggère que Washington use de la force contre le Hamas.
Voilà pour le journal. Merci Anne Albertson. On vous retrouve tout à l'heure. Un centre de traitement de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Kenema, l'un des districts de la Sierra Leone les plus touchés par l'épidémie d'Ebola, a laissé partir ses premiers patients guéris. Camille Grodidier.
Selon le ministère sierra-léonais de la Santé, au moins 423 cas de fièvre hémorragique à virus Ebola ont été recensés dans le secteur de Kenema. Parmi eux, Kadiatou Bangoura, 11 ans, qui a survécu à la maladie, explique son frère Emmanuel Bangoura. Je suis heureux, je remercie Dieu qui m'a rendu ma sœur, car je sais que c'est une maladie mortelle. Dans un village des alentours, dans le secteur de Waterloo, Osman Sissey brandit un certificat de guérison que lui a remis la Croix-Rouge. Il affirme avoir reçu ce certificat lorsqu'il est sorti guéri de la clinique. Il n'empêche, explique Gandhi Callon du ministère sierra-léonais de la Santé, il reste à ses survivants bien des obstacles à surmonter.
A survivor coming back into the community.
Le retour d'un survivant dans sa communauté représente un grand défi, dont la stigmatisation, qui est un problème majeur, non seulement pour les survivants, mais pour les malades qui veulent se déclarer et regagner un hôpital pour être soignés. D'où les efforts de la Croix-Rouge pour les conseiller avant leur réintégration. Des volontaires rencontrent les familles, les chefs traditionnels et les communautés. Par ailleurs, le programme de sensibilisation aux dangers du virus Ebola se poursuit et la détection précoce de la maladie semble essentielle à la survie.
La situation dans l'est de la République centrafricaine demeure fragile. Bambari, la deuxième ville du pays, et une grande partie de la région sont toujours contrôlées par les ex-rebelles Seleka. Les forces françaises assurent la sécurité dans la ville, mais en dehors de Bambari, les routes ne sont pas sûres et une bonne partie de l'activité économique tourne au ralenti. Donc, sale temps pour les commerçants et les hommes d'affaires locaux, Jean-Roger Bion.
Bambari est une importante ville commerciale en République centrafricaine, mais elle est aussi modeste que la piste de terre qui y mène. Sous de grands arbres, croupissent de vieux bâtiments coloniaux à l'abandon. La ville est parcourue par des sentiers pleins de boue. En ville, les troupes françaises et les forces de maintien de la paix des Nations Unies essaient de maintenir la sécurité. Mais à tout moment, la violence peut éclater à Bambari et dans ses environs. Marie-Chantal Samba raconte qu'elle a fui la ville à cause de l'insécurité.
Devant là où les Seleka sont en face de moi, par rapport à ce qui s'est passé, je suis obligée de quitter ma maison pour venir rester ici. Et c'est pourquoi nous demandons la paix pour rentrer et rester chez nous. Moi, je voulais même quitter Bambari parce qu'avec la situation-là, j'ai eu peur de rester dans des situations comme ça.
Marie-Chantal Samba a dû fermer son restaurant lorsque la Seleka a fait son entrée dans la ville. Depuis, elle a ouvert un nouveau restaurant au siège de la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Elle fournit également de la nourriture à l'hôpital régional, mais ce n'est pas assez pour joindre les deux bouts. La faim est la chose la mieux partagée ici. Karim Mamadou, un commerçant local, nous parle de la misère ambiante.
Il n'y a rien. Il n'y a pas de farine, il n'y a pas de maggi, il n'y a pas de... Beaucoup de choses. On amène à Douala, il n'y a pas de la route. Comment on va faire?
La ville d'environ 40 000 habitants est désormais le principal bastion des ex-rebelles. Selon la force française sur place, il y a entre 500 et 600 ex-Seleka qui y demeurent, principalement dans le quartier musulman. Face à l'insécurité, la présence de soldats français et internationaux est un rempart, mais seulement jusqu'à un certain point. On écoute le commandant Frédéric Dupré de l'opération Sangaris.
Il y a un peu un équilibre qui se fait, mais personne ne contrôle vraiment Bambari. Oui, les Seleka sont très présents. Aujourd'hui, la ville ne fonctionne plus comme une ville. Il y a un maire, mais qui a un peu disparu depuis que les ex-Seleka se sont battus entre eux.
Un mur invisible divise la ville. Un petit pont en bois sépare les quartiers à majorité musulmane de la partie à majorité chrétienne. Les musulmans ne s'aventurent pas dans les quartiers chrétiens et vice-versa. Toutes choses qui témoignent de la précarité de la paix à Bambari.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
La Fondation Mo Ibrahim a publié hier son classement 2014 des 52 pays africains sur la base de 95 indicateurs classés en 4 sous-catégories. Cette année encore, l'île Maurice occupe la tête du classement devant le Botswana et l'Afrique du Sud. La Somalie se classe en bas de tableau après la RCA. Selon Mo Ibrahim, les 5 pays en tête du classement ont vu ces 5 dernières années leurs notes se détériorer dans au moins une catégorie. Preuve, selon lui, que même les meilleurs doivent demeurer vigilants. Timothée de Nangmaï a recueilli l'analyse de Dani Aïda, chargé de programme du National Democratic Institute à Ouagadougou.
Sur un certain nombre de plans, il y a des pays qui ont fait des efforts substantiels, notamment quand on considère des critères comme la participation, les droits humains, le développement humain, et à l'opposé de la gouvernance économique durable qui était considérée pendant longtemps comme étant le critère principal. Et puis donc je crois qu'en termes de stabilité, de fonctionnement des institutions, on verra que d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, si on compare les rapports de la Fondation Mo Ibrahim sur une dizaine d'années, globalement on peut constater quand même qu'il y a des efforts.
Cette année encore, l'île Maurice domine le classement, Dani.
Oui, tout à fait. Là, on constate la constance dans les performances des institutions du pays sur différents plans. On voit l'île Maurice, le Cap-Vert, le Botswana quand même qui sont le plus haut de tête. C'est assez remarquable. Vous voyez, quand on prend par exemple les 10 premiers pays classés, bon, on voit par exemple le Sénégal en 9e position, le Sénégal en 10e. En Afrique de l'Ouest, évidemment, le Sénégal reste la grande référence. Quand on prend l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, le Rwanda, quelque chose ce qu'on peut reprocher à ce pays en termes de démocratie, a démontré cette stabilité sur les critères. À mon avis, c'est un indice à l'avantage d'offrir quand même des critères assez objectifs en termes de mesure de performance des États. Et cela mérite d'être salué. Et c'est un référentiel qui doit pouvoir inspirer les décideurs politiques et économiques des États pour comprendre dans quel secteur il faut faire des efforts. Et globalement, vous constaterez qu'il y a, en plus de la gouvernance qui permet de mesurer la qualité donc, de la façon dont les États fonctionnent, cela peut être comparé aux performances économiques de ces pays également. Donc, c'est à saluer. Et si je me réfère encore à la région où je me trouve, moi-même, l'Afrique de l'Ouest, vous verrez qu'il y a un nombre de pays qui étaient très mal classés jusque-là. Exemple de la Côte d'Ivoire, du Libéria, Sierra Leone ou Niger, par exemple, ont fait des efforts substantiels dans le domaine notamment de la participation citoyenne à la gouvernance notamment.
On se rend compte qu'en Afrique francophone, en Afrique centrale, on traîne encore là-bas.
Vous verrez que l'avant-dernier, c'est Centrafrique, juste avant la Somalie. Donc, ce sont les pays en crise où les institutions de l'État sont à terre. Et donc, quand on considère les principaux critères comme la sécurité et l'état de droit, la participation aux droits humains, le développement économique ou le développement humain, en gros, il y a même de ces pays où les données ne seront même pas existantes pour permettre une mesure objective. Et l'Afrique francophone, c'est bien de le remarquer, hein, en termes de performance de la démocratie, n'est pas la grande référence quand on considère ce critère-là d'une région à l'autre, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Et cela doit interpeller parce que je me rappelle encore, il n'y a pas si longtemps, il y a un chef d'État africain qui osait répondre à Obama en disant qu'il fallait de grands hommes par-delà les institutions fortes. Et vous remarquerez que les institutions fortes, c'est elles qui permettent à l'État de droit de fonctionner en faisant participer activement les citoyens avec la régulation que cela permet au niveau des institutions du pays, au-delà donc des hommes qui les dirigent. C'est ainsi qu'un petit pays comme le Cap-Vert, par exemple, ou bien comme le Botswana, arrive à être cité en référence.
Eh bien, tentons ce matin de lever un coin du voile sur les négociations secrètes ayant abouti à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud avec les explications d'un de ses soi-disant acteurs, le français Jean-Yves Olivier, homme d'affaires et négociant en politique comme il se présente lui-même. Grâce à ses entrées dans diverses capitales d'Afrique australe et du monde, il dit avoir réussi à lancer les discussions sur la situation en Afrique australe en pleine guerre froide et France-Afrique, tout en restant en retrait. Une expérience qu'il a relatée dans son livre « Ni vu, ni connu, ma vie de négociant politique de Chirac et Focard à Mandela ». De nouveau Timothée de Nangmaï qui a recueilli le témoignage de Jean-Yves Olivier.
Je pense que c'est un pays qui doit m'offrir des possibilités de développement. Et je trouve un pays qui est totalement au bord du gouffre, avec une communauté blanche qui ne comprend pas ce qui se passe, qui n'analyse pas le fait qu'ils vont être détruits. Ils vont devoir partir. Comme je connais du fait de mes affaires la plupart des présidents de la région, y compris les présidents marxistes-léninistes, j'ai pensé que je pouvais essayer de réinstaurer un dialogue et de responsabiliser l'Afrique sur le devenir de l'Afrique du Sud.
Et vous parvenez à lancer un improbable dialogue entre toutes ces parties.
C'est ça, je lance un dialogue, c'est-à-dire je ramène la capacité de dialogue à l'Afrique centrale principalement, puisque c'est à Brazzaville que les accords vont être signés et qui vont ouvrir la voie à la fin de l'apartheid. Et on accepte de me croire. J'offre, disons, une première garantie en faisant libérer des prisonniers politiques, 180 prisonniers politiques de diverses régions, de divers pays. Je fais un grand échange de prisonniers, ce qui me donne une crédibilité de pouvoir entamer des dialogues. Et puis, je convainc tout le monde que c'est en Afrique que la solution doit être trouvée. Et c'est l'Afrique qui va devoir donner la garantie aux Blancs qu'ils ont un avenir commun avec leurs frères noirs dans la nouvelle Afrique du Sud. Cette garantie auxquels ils n'espéraient plus, puisqu'ils étaient convaincus que maintenant tout le monde était leur ami. Et c'est ce qui va se passer à Brazzaville.
Il faut souligner que les choses étaient particulièrement compliquées à l'époque par la guerre froide.
On est dans une situation, vous savez, les Russes ont des poupées, ce qu'on appelle les poupées russes, les matrioshkas, c'est-à-dire un emboîtement de poupées les unes dans les autres. On pourrait dire que la grande poupée, celle qui apparaît, c'est la guerre froide. C'est la lutte entre les Russes et les Américains qui a lieu sur le territoire de l'Afrique, où cette guerre froide est une vraie guerre. Il y a des combats, il y a des batailles, il y a des armées, il y a des occupations. Et puis il y a la deuxième poupée, c'est la ligne de front, ce qu'on appelle la ligne de front, c'est-à-dire les pays qui entourent l'Afrique du Sud, qui sont l'objet d'attaques de l'Amérique par proxy et ils sont défendus par les Russes par proxy également. Les proxys des Russes, c'était les Cubains. On oublie qu'il y avait 30 000 Cubains en Angola, que M. Savimbi, qui luttait contre le pouvoir à Luanda, le pouvoir marxiste-léniniste de Luanda, était soutenu par M. Reagan, qui l'a reçu officiellement à Washington. Le miracle, c'est que tout le monde voulait intervenir dans un dialogue blanc-noir, alors que ce dialogue, il a eu lieu, mais il a eu lieu en dehors de toute influence. Parce que justement, la paix a commencé à régner, s'est installée dans la région. Donc, le dialogue a pu avoir lieu entre les Sud-Africains de l'ANC et le pouvoir blanc de l'apartheid. Ils ont trouvé la solution eux-mêmes.
L'homme d'affaires français, Jean-Yves Olivier, de passage dans nos studios ici à Washington.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Le bilan mitigé de la gouvernance en Afrique, dressé par la fondation Mo Ibrahim, alors que des voix s'élèvent en RDC, au Burundi, au Congo-Brazzaville ou encore au Burkina Faso, contre toute modification de la Constitution destinée à permettre à un chef d'État de se maintenir au pouvoir. Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h10 sur la VOA.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour, Idrissa.
Nouvelle journée de la Ligue des Champions ce soir en Europe.
La deuxième journée débute par le choc au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Zlatan Ibrahimovic sera forfait pour cette rencontre. L'Ajax d'Amsterdam en déplacement chez la l'APOEL Nicosie. Manchester City accueille l'AS Rome. Le Bayern de Munich qui ira affronter le CSKA à Moscou. Chelsea qui voyage au Portugal pour jouer contre le Sporting. Schalke 04 contre Maribor. Et puis Shakhtar Donetsk contre le FC Porto Enfin, le batté Borisov contre l'Athletic Bilbao.
Retour triomphal hier soir à Kinshasa pour l'AS Vita Club.
Les Dauphins Noirs sont rentrés hier au pays après leur qualification pour la finale de la Ligue des Champions. L'AS Vita Club est à nouveau allé battre, je vous le rappelle, samedi le CS Sfaxien, cette fois en Tunisie, 2-1. Le club quinois rencontrera en finale l'Entente Sportive de Sétif, tombeur de Mazembe, l'autre club congolais dimanche. Et pour l'AS Vita Club, c'est un grand retour parmi l'élite. Ça faisait 41 ans qu'il n'avait pas atteint ce stade de la compétition.
Merci Nicolas. On passe à la musique avec Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Idrissa. Shake It Off est une chanson de l'artiste américaine Taylor Swift. Elle est sortie le 18 août 2014 en tant que premier single de 1989, le cinquième album studio de la chanteuse. Le titre, Pop, se démarque musicalement des précédentes chansons de la chanteuse, hein, qui étaient de la country pop. Alors Taylor, pop ou country? I don't know Idrissa. Écoutons Shake It Off.
I see I'm too late.
Shake It Off est un succès qui a atteint notamment la première place aux classements musicaux canadiens et américains.
Correct, Idrissa. Et d'ailleurs, cette chanson était la plus téléchargée en une semaine cette année aux États-Unis, avec près de 544 000 exemplaires vendus au mois d'août 2014. C'est pas peu ça, Idrissa.
Taylor Swift, Shake It Off. Merci Roger.
De rien Idrissa, nos salutations ce matin à toute la famille de Ousbi Diallo à Conakry.
Retrouvez Roger Muntu dans le RM Show à 20h temps universel. Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington,
La Voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.